Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence et merci surtout pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et donc, comme Benoît Friedman le précisait en me présentant, je ne suis ni économiste, ni philosophe, et malheureusement encore moins juriste, mais je suis donc politologue. Et mon intervention aujourd'hui va essayer de replacer le contexte géopolitique général du changement climatique, et c'est-à-dire le contexte, finalement, dans lequel prennent place les différents instruments, dont le marché du carbone ou le mécanisme de développement propre, que vous avez eu l'occasion de voir dans les interventions précédentes et sur lequel vous vous attacherez encore dans les interventions qui suivront la mienne. Donc, paradoxalement, je ne parlerai pas dans mon intervention du marché carbone ni du mécanisme de développement propre, mais plutôt du contexte dans lequel ces mécanismes trouvent leur place. Alors, je vous propose un plan en quatre parties. Je vous propose d'abord de peut-être éteindre les néons immédiats. Je ne sais pas si c'est possible. C'est bien comme ça ?
Dans les conditions, peut-être le micro dans l'autre sens.
Comme ça, on est paré. Je vais mettre là. Voilà, donc je vous propose un plan en quatre parties. Dans un premier temps, je vous propose de regarder ensemble quel est l'état des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et surtout essayer de comprendre ce qui fait que certains États polluent davantage que d'autres et comment on peut, à partir de là, regarder différemment la géographie des responsabilités. Vous savez que l'ensemble du régime climatique est largement bâti sur le principe de responsabilité commune mais différenciée, donc sur l'idée que tous les États partagent la responsabilité du changement climatique mais que la responsabilité de certains est plus grande que celle d'autres, et que donc ceux dont la responsabilité est la plus grande doivent entreprendre l'essentiel de l'effort. Et donc, nous essaierons de voir un peu comment on peut définir différemment cette question de la responsabilité. Dans ce deuxième temps, nous verrons comment le changement climatique va affecter les différentes populations, et en d'autres termes, comment on peut définir différemment aussi la question de vulnérabilité, qui est une autre question clé, une autre notion clé, dans la négociation sur le changement climatique. La négociation sur l'atténuation, donc sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, porte largement sur la question de la responsabilité. La négociation qui porte sur l'adaptation, donc sur comment nous allons pouvoir faire face aux impacts du changement climatique, par contre, tourne largement autour de la notion de vulnérabilité. Puis, j'examinerai ce qu'on présente souvent comme la conséquence géopolitique majeure du changement climatique, les déplacements de population, en essayant de vous montrer combien la réalité empirique de ces déplacements est souvent à contre-courant du discours déterministe qu'on a sur la question, et quels sont les principaux instruments que l'on peut utiliser précisément pour traiter la question. Et puis enfin, je discuterai du processus de négociation lui-même, comment il est organisé, comment il s'est enrayé à Copenhague, ce que Cancun a permis de sauver, et j'essaierai de tracer quelques perspectives pour la conférence de Durban à la fin de cette année et pour le futur régime climatique. Si à un moment de l'exposé, il y a un point qui vous échappe, qui n'est pas bien compris, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Je sais que nous aurons après une heure de questions et réponses, mais s'il y a un point de compréhension, vraiment, n'hésitez pas. Tout d'abord, je vous propose donc d'examiner l'état des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Avant de regarder les émissions par pays, je pense qu'il est utile de regarder l'état des émissions par secteur économique et d'avoir ce graphique en tête. En schématisant, quitte à caricaturer, on peut dire que 2/3 des émissions dans le monde proviennent de la production et de la consommation des énergies fossiles. Ce sont les parties du graphique que vous voyez dans les couleurs chaudes. Dans les couleurs vertes, vous voyez les émissions qui sont liées essentiellement à l'agriculture et à l'usage des sols, qui est le terme politiquement correct pour désigner la déforestation. Le Brésil, dans les négociations, était très insistant quant au fait qu'on n'utilise pas le terme déforestation qui pointait directement à sa responsabilité. Il a donc beaucoup insisté pour qu'on utilise plutôt le terme d'usage des sols plus neutre. Alors, je vais éternuer. Non ? Excusez-moi. Alors, si je vous montre ce graphe, c'est parce que derrière cette répartition entre émissions liées à l'utilisation, à la consommation, à la production de l'énergie et émissions qui ne sont pas liées aux sources énergétiques, transparaît déjà une forme de répartition entre émissions des pays industrialisés et des pays en développement. En réalité, quand on parle de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, on parle surtout des émissions liées au transport, à l'industrie, au logement, etc. On parle assez peu des émissions liées à l'agriculture et des émissions liées à la déforestation, quoiqu'elles représentent à peu près un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si on en parle assez peu, c'est parce que ces émissions sont très largement le fait, pas exclusivement bien sûr, mais très largement le fait de pays en développement. Et que jusqu'ici, le régime climatique n'intègre pas les pays en développement. Et que l'enjeu aujourd'hui, dans les négociations, ça va être de trouver une manière d'intégrer les pays en développement, et en particulier les pays émergents, dans un mécanisme de réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Parce que on se rend compte qu'on ne parviendra pas à lutter globalement contre le changement climatique si on n'intègre pas aussi les émissions qui ne sont pas liées à la production et à la consommation d'énergie. Pourquoi certains émettent-ils davantage que d'autres ? En d'autres termes, qu'est-ce qui explique que certains pays sont des gros pollueurs et d'autres de plus petits pollueurs ? Il y a d'abord la première explication, qui est l'explication évidente. Certains pays sont tout simplement plus riches que d'autres. Et à travers l'histoire, on a constaté une corrélation continue entre la croissance économique, et la croissance des émissions de gaz à effet de serre. À peu près de tout temps, à quelques rares exceptions près, lorsque la croissance économique était en progrès, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre croissaient également. Ce qui explique aujourd'hui qu'il y ait, dans la négociation, des tensions importantes entre les objectifs de développement et les objectifs de protection du climat. Les pays en développement insistent sur la nécessité pour eux de continuer leur développement et donc sur l'impossibilité pour eux de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En caricaturant, leur discours est de dire « Nous sommes encore pauvres, nous devons nous développer, donc il y a pour nous un impératif de continuer à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. » Et la raison pour laquelle les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions, c'est aussi pour permettre aux pays en développement de continuer à augmenter leurs émissions. C'est ce qui va expliquer, par exemple, l'apparition de mécanismes comme le mécanisme de développement propre, qui va avoir pour but notamment de réconcilier ces objectifs de développement et ces objectifs de protection du climat, qui paraissent souvent antinomiques dans la négociation. C'est ce qui explique aussi la montée, notamment chez certains philosophes français ou dans certains milieux, particulièrement en France, mais dans d'autres pays aussi, la montée en puissance d'idées comme celle de la décroissance, qui consiste à dire, puisque nos émissions de gaz à effet de serre ont toujours été liées à la croissance économique, la seule manière pour nous de réduire nos émissions, c'est simplement de comprimer l'économie et donc de réduire cette croissance. C'est une idée qui apparaît déjà dans les travaux du Club de Rome dans les années 60. Et effectivement, en 2009, nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial ont légèrement baissé. Ce n'est pas tant le fait de nos efforts pour réduire nos émissions, c'est surtout le fait de la crise financière et économique qui a contribué à une légère baisse des émissions. Ce qui fait qu'on se trouve aujourd'hui face, quelque part, à un dilemme, en tout cas à un choix important. Soit nous allons dans un système de décroissance où donc on comprime l'économie de manière à réduire aussi nos émissions de gaz à effet de serre, soit on fait le pari qu'il soit possible de découpler, pour la première fois dans l'histoire, nos émissions de gaz à effet de serre de la croissance économique. C'est le pari de la croissance verte, dans laquelle la plupart des gouvernements des pays industrialisés veulent aujourd'hui s'engager. C'est l'idée qu'il serait possible de continuer à faire croître l'économie sans faire croître les émissions de gaz à effet de serre. Alors certains pays y arrivent déjà plus ou moins bien, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède. La question aujourd'hui et le pari, c'est de savoir si ce modèle est potentiellement applicable à tous les pays et notamment aux pays émergents. Ça, c'est la première raison, celle qui paraît évidemment la plus évidente. Ce n'est pas la seule raison pourtant. Aujourd'hui, beaucoup pointent aussi du doigt la croissance démographique. Et si certains pays émettent plus que d'autres, c'est aussi parce que certains sont beaucoup plus peuplés que d'autres. Alors ça paraît évidemment d'une logique implacable, et la conséquence de cela, qu'on entend aujourd'hui dans de nombreux milieux environnementalistes, c'est de pointer du doigt la croissance démographique continue comme principale responsable du changement climatique. Et de dire la solution pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est avant tout le planning familial et la réduction des naissances. Et on voit souvent apparaître, dans certains milieux, cette idée que plutôt que de comprimer l'économie, ou plutôt que de faire le pari de la croissance verte, il serait plus facile, finalement, de réduire la taille de la population mondiale et donc de mettre en place des politiques strictes de planning familial. Les Chinois rappellent d'ailleurs volontiers dans les négociations que c'est grâce à la politique de l'enfant unique qu'ils ont menée dans les années 80 et 90 que la situation n'est pas plus grave aujourd'hui et réclament d'ailleurs des quotas de carbone additionnels pour compenser le sacrifice qu'ils ont fait avec la politique de l'enfant unique. Il est important, bien sûr, de reconnaître le poids du facteur démographique dans le changement climatique. Je pense néanmoins qu'il faut faire attention à ne pas, si vous me passez l'expression, à ne pas tout mettre sur le dos du facteur démographique. Et de rappeler notamment que 70% des émissions aujourd'hui sont émises par seulement 1 milliard de personnes. Et que c'est le continent à la plus forte croissance démographique, l'Afrique, qui a aussi la plus faible croissance de ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc je pense qu'il est utile de reconnaître l'importance de ce facteur, mais de ne pas considérer que ce facteur est le seul facteur explicatif du changement climatique et de la raison pourquoi certains pays polluent plus davantage que d'autres. Un troisième type d'explication qui était très longtemps ignoré dans la négociation, c'est l'importance de la géographie. On entend aujourd'hui dans la négociation des pays comme la Russie ou comme le Canada dire, écoutez, il est normal que nous consommions plus en chauffage que des pays comme le Maroc ou le Botswana, simplement parce que notre climat est plus froid. On entend aujourd'hui des pays comme l'Australie ou les États-Unis dire, écoutez, il est logique que les émissions de gaz à effet de serre représentées chez nous par le secteur de l'aviation domestique soient plus importantes que les émissions du Luxembourg. Simplement parce que pour aller d'une ville à l'autre aux États-Unis ou en Australie, vous devez presque toujours prendre l'avion. Pour aller d'une ville à l'autre au Luxembourg, il suffit généralement de marcher. Et donc beaucoup mettent aujourd'hui en avant dans la négociation l'importance de ces facteurs géographiques pour expliquer et pour justifier des niveaux de pollution plus élevés, alors que ce sont des facteurs qui avaient été jusqu'ici complètement ignorés. De la même manière, la présence de ressources naturelles est aussi un facteur utilisé par beaucoup pour justifier la nécessité ou le besoin de polluer davantage. Certains disent, voilà, nous sommes assis sur des réserves de charbon considérables, le cas de la Chine, nous avons le droit d'utiliser ces réserves naturelles, nous avons le droit d'utiliser ce charbon, il est hors de question que nous n'y touchions pas. Et puis bien sûr, quatrième facteur d'explication, il y a ce que certains pays ont fait pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En d'autres termes, les politiques publiques que certains pays ont mises en place ou non sont aussi un facteur important qui explique pourquoi certains pays polluent davantage que d'autres. Certaines de ces politiques ont été directement mises en place pour répondre aux défis climatiques. Par exemple, la taxe carbone dans les pays scandinaves a clairement pour but, évidemment, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et c'est effectivement l'objectif qu'elle a atteint. D'autres politiques publiques, par contre, ont été mises en place pour des buts complètement différents et sont aujourd'hui utilisées dans la négociation pour justifier de niveaux de pollution plus ou moins élevés et donc pour justifier d'efforts plus ou moins grands à entreprendre. Je vous ai parlé de la Chine qui a mis en place la politique de l'enfant unique dans les années 80 et 90 et qui dit aujourd'hui, vous devez nous remercier du sacrifice que nous avons consenti. S'il y avait aujourd'hui 2,5 milliards de Chinois plutôt qu'1,3 milliard, eh bien la situation serait beaucoup plus catastrophique et serait ingérable. Et donc pour nous remercier, il faut nous reconnaître le droit de continuer à augmenter nos émissions de dioxyde de carbone. D'autres pays, comme la France, utilisent ce même type d'argument. La France dit, nous avons fait le choix de l'énergie nucléaire. Grâce à l'énergie nucléaire, nous émettons beaucoup moins de gaz à effet de serre que nos voisins anglais ou allemands. Et par conséquent, notre effort de réduction des émissions doit être beaucoup moins conséquent que celui des Allemands ou des Anglais. C'est ainsi que, dans le protocole de Kyoto, la France a négocié un objectif de 0%, c'est-à-dire la France est simplement engagée à maintenir constante ses émissions par rapport au niveau de 1990, quand l'Allemagne s'est engagée à faire moins 21%, le Royaume-Uni moins 12%. Évidemment, quand les présidents de Gaulle et Pompidou ont fait dans les années 50 et 60 le choix de l'énergie nucléaire en France, ce n'était pas du tout un choix qui était dicté par la menace du changement climatique. C'était un choix qui était dicté par des impératifs de sécurité énergétique, de technologie, de prix de l'énergie. Mais c'est une politique qui aujourd'hui est trafiquée, où il y a une tendance à réécrire l'histoire pour faire semblant que cette politique était aussi une politique climatique et donc peut justifier d'efforts de réduction de gaz à effet de serre moindres aujourd'hui. Et puis le cinquième et dernier type d'explication, c'est le poids des événements historiques. Et l'exemple le plus connu, c'est évidemment celui de l'éclatement de l'URSS à partir de 1991. À partir de 1991, on voit une chute drastique des émissions en provenance de l'URSS, simplement parce que d'une part, les industries lourdes, la plupart des grosses industries fermaient les unes après les autres en Russie, et parce que les petites républiques soviétiques prenaient leur indépendance, et à chaque république qui devenait indépendante, c'était une partie des émissions qui étaient retranchées du total de la Russie. Et donc, on observe, à partir de 1921, une chute drastique des émissions de la Russie qui ne s'explique pas du tout par des politiques mises en place par la Russie, mais simplement par l'éclatement de l'URSS. Et c'est aussi cela qui justifie le choix de 1990 comme année de référence dans le protocole de Kyoto, simplement parce que ce choix de 1990 rendait les choses beaucoup plus faciles pour les Russes. En d'autres termes, pour remplir ses objectifs de Kyoto, Boris Yeltsin et Vladimir Poutine n'avaient qu'à s'asseoir dans le bureau du Kremlin et regarder leur pays s'effondrer et les émissions baisser toutes seules sans qu'il soit besoin de faire quoi que ce soit. Ces cinq types de facteurs, combinés les uns aux autres, expliquent largement pourquoi certains pays polluent davantage que d'autres. Alors, qui sont les pays qui polluent le plus? En d'autres termes, qui sont les pays qui sont les plus responsables du changement climatique? La manière classique de voir les choses, c'est celle-ci. C'est d'imaginer que, et vous voyez sur cette carte la taille des pays qui est proportionnelle à leurs émissions de gaz à effet de serre sur une année donnée, la manière classique de voir les choses, c'est d'imaginer qu'on regarde pour déterminer qui est le plus pollueur, qui a le plus pollué sur une année donnée. Et donc, si on fait ce genre d'exercice, on constate que la Chine et les États-Unis sont les premiers pollueurs mondiaux. On constate, contrairement à ce qu'on croit souvent, que les émissions de la Chine et de l'Inde ne sont pas du tout comparables. La Chine pollue à peu près 3 fois plus que l'Inde. On constate que l'Afrique disparaît à peu près complètement de la carte, à l'exception des pays du Maghreb et de l'Afrique du Sud. Et donc, avec ce type de carte, qui est la vision classique, on a, en quelque sorte, une sorte de hit parade des principaux pollueurs, Chine, États-Unis, suivi de près par le Japon, par l'Union européenne. Remarquez comme la taille de la Belgique est très grossie par rapport à sa taille réelle. On a aussi l'impression, avec ce genre de carte, que le Canada, par exemple, pollue beaucoup moins que les États-Unis. Un nombre croissant de pays dans la négociation, pourtant, ne sont plus d'accord avec cette façon de voir les choses, qui est pourtant la façon classique dont on a toujours considéré les niveaux de responsabilité des différents pays. Ils disent par exemple, il ne faut pas compter les émissions par pays, il faut en réalité compter les émissions par habitant. Et il serait beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable de considérer que chacun a le droit au même standard de vie et donc a le droit au même niveau d'émission. Et si on regarde les émissions non plus par pays mais par habitant, les pays qui arrivent en tête du hit-parade des principaux pollueurs sont avant tout les pays du Golfe, Qatar, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït, suivis par les États-Unis et le Canada, qui par habitant ont à peu près le même niveau de pollution, et puis suivis très très loin derrière par la Chine. Dans le classement par habitant, la Chine recule autour de la 30e position du classement des pays les plus pollueurs. Et donc si on regarde la situation par habitant plutôt que la situation par pays, on a en réalité une réalité des responsabilités très différentes. La géographie des responsabilités du changement climatique change du tout au tout, et le principe de responsabilité commune mais différenciée est évidemment complètement transformé. Ce sont donc les deux grandes approches aujourd'hui qui sont concurrentes quand on cherche à définir quelle est la responsabilité des uns et des autres dans la génération du problème. Ce ne sont pas les seuls. À côté de ces deux grandes approches, il y a encore d'autres approches qui sont possibles. Par exemple, beaucoup de pays aujourd'hui mettent en avant le critère d'intensité énergétique. En d'autres termes, combien d'émissions de gaz à effet de serre devez-vous produire pour ajouter une unité additionnelle de richesse à votre produit intérieur brut? Les objectifs de réduction d'émissions qui sont annoncés aujourd'hui par la Chine ou par les États-Unis sont généralement exprimés en termes d'intensité énergétique. C'est-à-dire, nous promettons que nous utiliserons à l'avenir moins d'énergie fossile pour faire croître notre économie. L'avantage de cette mesure en termes d'intensité énergétique, c'est qu'elle permet en réalité de continuer à augmenter ses émissions de gaz à effet de serre. Puisque pour faire baisser votre intensité énergétique, vous avez deux solutions. Soit vous faites effectivement diminuer vos émissions de gaz à effet de serre, soit vous vous assurez que votre produit intérieur brut, croîtra plus rapidement que vos émissions de gaz à effet de serre. En d'autres termes, c'est une mesure de l'efficacité de l'économie. Et aujourd'hui, pour des pays comme la Chine et les États-Unis, il est beaucoup plus facile d'afficher évidemment des objectifs en termes de réduction d'intensité énergétique plutôt que des objectifs de réduction effective de leurs émissions. C'est ce qui explique le succès de cette mesure qui est en réalité une mesure assez trompeuse. Et effectivement, si l'on prend l'intensité énergétique, les pays qui seraient les plus responsables du changement climatique seraient aussi les pays les moins efficaces, c'est-à-dire ceux qui doivent utiliser le plus d'énergie fossile pour faire croître leur économie. Certains pays, et le Brésil en particulier, ont aussi fait la réflexion suivante. On dit qu'il n'est pas juste de calculer les émissions simplement sur une année donnée, puisqu'on sait que les gaz à effet de serre restent longtemps, plusieurs siècles pour certains, dans l'atmosphère, et que c'est l'accumulation de ces gaz qui provoque le réchauffement climatique. Et donc, puisque c'est l'accumulation des gaz plutôt que les émissions de gaz sur une année donnée qui provoque le réchauffement climatique, il n'y a aucune raison que nous considérions uniquement les émissions sur une année donnée. Il faut en réalité regarder les émissions cumulatives. Et si on regarde les émissions cumulées depuis 1750, c'est-à-dire depuis le moment où les émissions de gaz à effet de serre ont commencé à augmenter sensiblement, eh bien à ce moment-là, le pays le plus responsable devient le Royaume-Uni. Mais évidemment, quand les Brésiliens ont avancé cet argument, Tony Blair s'est étranglé et a dit « Mais attendez, vous ne pouvez pas considérer que mon pays, qui a fait dans les dernières années des réductions d'émissions tout à fait considérables, qui a mené des politiques climatiques très ambitieuses, ne pouvait pas considérer que le Royaume-Uni est le pays le plus responsable. D'abord, en 1750, nous n'avions aucune idée que nos émissions de gaz à effet de serre allaient provoquer le changement climatique. La géographie en 1750 est complètement différente de la géographie aujourd'hui. L'Angleterre de 1750, avec ses 80 colonies, n'a plus rien à voir avec ce qu'est le Royaume-Uni aujourd'hui. Des pays ont disparu, d'autres ont apparu. Et puis enfin, on ne savait pas exactement combien on émettait à l'époque. On peut juste reconstituer des estimations approximatives, mais il n'y avait pas de mesure effective des émissions à l'époque. Et donc, beaucoup aujourd'hui considèrent que si on prend en compte les émissions cumulatives, on pourrait le faire qu'à partir de 1990, c'est-à-dire à partir de la publication du premier rapport d'évaluation du GIEC, date à partir de laquelle plus personne ne pouvait dire qu'il ne savait pas ce à quoi ces émissions de gaz à effet de serre mèneraient. Et l'Angleterre a logiquement contre-attaqué en disant « Attendez, Brésil, si vous voulez qu'on prenne en compte les émissions sur une période donnée plutôt que les émissions sur une année donnée, il faut à ce moment-là inclure également les émissions liées à la déforestation. » Et l'anagramme LULUCF signifie « Land Use, Land Use Change and Forestry ». C'est l'acronyme politiquement correct pour désigner l'usage des sols, qui est lui-même le terme politiquement correct pour désigner la déforestation. Les émissions liées à la déforestation, pour l'instant, ne sont pas comptées dans les émissions nationales. Je ne vais pas. C'est lié à l'histoire des négociations, on pourra revenir à ça dans la séance de questions-réponses, mais on considère que les émissions liées à la déforestation, finalement, ne sont attribuables à personne et donc ne sont pas comptées dans les totaux nationaux. Pourtant, si on prend en compte les émissions liées à la déforestation, par exemple, le Brésil arrive à la troisième place des pollueurs, l'Indonésie à la quatrième. Pourquoi est-ce que je vous raconte ceci? Pour vous faire comprendre que, sur la manière dont on va mesurer les émissions de gaz à effet de serre des différents pays, on va avoir différentes lectures du principe de responsabilité commune mais différenciée. Et que ce principe, en réalité, dépend très largement, l'application de ce principe dépend très largement de la manière dont on va mesurer les émissions, et qui est aujourd'hui une question qui continue à faire débat, et qui justifie l'importance dans les négociations de ce qu'on a appelé le MRV, c'est-à-dire le principe de Measuring, Reporting, Verifying, donc de mesure, de rapport et de vérification des émissions, qui était au départ une question purement technique et méthodologique, et qui est devenue au fil du temps, évidemment, une question de plus en plus politique, et aujourd'hui une pierre d'achoppement essentielle des négociations. Voilà donc comment on peut voir la responsabilité de différentes façons. Comment maintenant définir la vulnérabilité des différents pays par rapport au changement climatique? En d'autres termes, quelles sont les régions du monde qui sont les plus vulnérables? Quelles sont celles qui devraient aussi logiquement recevoir le plus de financement de l'adaptation? Alors, comme vous le savez, les effets du changement climatique ne seront pas uniformes. Et généralement, lorsqu'on parle d'effets, on parle de hausse de température moyenne, d'élévation moyenne du niveau de l'eau. En réalité, ces moyennes cachent des différences tout à fait importantes. La règle générale est que les pays qui seront les premiers et les plus touchés par les impacts du changement climatique sont les pays situés au sud. Le problème des pays situés au sud, c'est que ce sont aussi généralement des pays en développement, c'est-à-dire des pays qui, d'une part, ont peu de ressources pour financer l'adaptation, et des pays qui, d'autre part, portent une responsabilité très, très, très limitée dans la génération du problème climatique. Ajoutez à ça une dimension temporelle, qui fait que la génération qui sera la première et la plus touchée par les effets du changement climatique, enfin qui sera la plus touchée par la première, ça sera la génération de nos petits-enfants qui, par définition, ne porte aucune responsabilité dans la génération du problème, puisque cette génération n'est pas encore née. Et donc, il y a une double injustice, une injustice géographique et une injustice intergénérationnelle. Alors, je vais me concentrer sur la question de l'injustice géographique. Il y a tout un courant en philosophie qui discute de la justice intergénérationnelle, mais je ne m'aventurerai pas dans cette voie. Alors, si on regarde les cartes qui sont projetées à l'écran, les cartes montrent quelle serait l'élévation de la température dans les différents pays pour une élévation moyenne de 2 degrés, qui est donc l'objectif qui était retenu par les conférences de Copenhague et de Cancun. Vous voyez que plus 2 degrés en moyenne, ça veut dire, en été, c'est la carte du haut, plus 4 ou plus 5 degrés pour des pays comme l'Espagne ou le Portugal en été, ça veut dire plus 6 pour des pays comme le nord du Canada ou la Sibérie en hiver. Si on prend l'hypothèse qui aujourd'hui devient l'hypothèse lourde, c'est-à-dire l'hypothèse d'une hausse moyenne de la température de plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, eh bien plus 4 degrés en moyenne pour un pays comme le Sénégal, ça veut dire plus 12 degrés, par exemple. Et donc, on a là des impacts qui sont en réalité très différenciés selon les pays et qui sont en réalité souvent cachés derrière des impacts moyens ou globaux. Les trois impacts qui auront le plus d'influence sur les populations, ça sera d'une part la hausse du niveau des mers, d'autre part les problèmes liés à l'eau et à la dégradation des sols consécutive à cela, et enfin les problèmes qu'on appelle les événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire les tempêtes, les ouragans ou les inondations soudaines, somme toute les catastrophes liées au climat. Commençons par la hausse du niveau des mers, qui, contrairement à ce qu'on croit souvent, ne sera pas identique partout. La hausse du niveau des mers est la conséquence de deux phénomènes concomitants. D'une part, l'expansion thermique des océans. Quand l'eau devient plus chaude, elle prend plus de place. Et d'autre part, la fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires. Contrairement à une image très souvent véhiculée par les médias, la fonte de la banquise et des icebergs n'a aucune conséquence sur la hausse du niveau de la mer. C'est une catastrophe pour les ours polaires et pour la biodiversité locale, mais en termes d'élévation du niveau de la mer, c'est comme si vous faisiez fondre un glaçon dans un verre d'eau, ça ne change pas du tout le niveau. Puisque les océans ne se réchaufferont pas tous de la même façon, et puisque certaines parties de l'océan connaîtront un changement de température beaucoup plus important que d'autres, et puisque également, par ailleurs, les glaciers et la calotte polaire ne sont pas tous situés au même endroit, eh bien, à certains endroits, le niveau de la mer va monter beaucoup plus qu'à d'autres endroits. Ça paraît très contre-intuitif, puisqu'on s'imagine souvent qu'il y a un grand phénomène de vase communicant qui fait que le niveau de la mer s'équilibre partout à l'échelle du globe. En réalité, sans entrer dans des détails très techniques, les courants marins, l'étroitesse de certains détroits et des phénomènes tectoniques font qu'en réalité, le niveau de la mer n'est pas le même partout. Déjà aujourd'hui, le niveau de l'océan Atlantique, par exemple, n'est pas le même que le niveau de la mer Méditerranée. Et donc, par conséquent, à certains endroits, l'eau va monter beaucoup plus qu'à d'autres endroits. On estime, grosso modo, à la grosse louche, que dans un scénario optimiste, la hausse du niveau de la mer moyenne serait d'un mètre d'ici la fin du siècle. Un mètre en moyenne, ça veut dire que ça sera 2 mètres ou 2,5 mètres à certains endroits et moins à d'autres endroits. Les régions qui seront évidemment les plus touchées par cette hausse du niveau de la mer sont les régions côtières et deltaïques qui sont aussi, comme on le sait, des régions qui comptent parmi les plus densément peuplées. Donc vous voyez sur cette carte, qui est une simulation de la NASA, quel serait l'effet d'une hausse moyenne, on suppose une hausse moyenne d'un mètre, d'ici la fin du siècle, et vous voyez toutes les zones en rouge sont des zones qui seraient inondées. Donc vous voyez d'une part que les pays industrialisés, l'Europe, les États-Unis, le Canada, ne seront pas épargnés, mais vous voyez que clairement, l'impact le plus important, ça sera ici, en Asie du Sud-Est, et vous voyez que des pays comme les Philippines ou l'Indonésie perdront une partie tout à fait significative de leur territoire. Puisque les régions côtières et deltaïques comptent aussi parmi les plus densément peuplées, on pense que cette élévation du niveau de la mer va provoquer des déplacements de population très importants. On estime par exemple, pour chaque centimètre d'élévation du niveau de la mer, c'est 1 million supplémentaire de personnes qui risquent de devoir se déplacer si rien n'est fait pour protéger les territoires ou pour aménager l'habitat de ces personnes. Ça veut donc dire que, simplement, suite à la hausse du niveau des mers, encore une fois, en supposant que cette hausse soit d'un mètre uniforme, ce qui est une sorte de vue de l'esprit, mais pour le moment, on est incapable de dire où l'on montera davantage, ça voudrait dire qu'à peu près 100 millions de personnes risquent de devoir, demain, se déplacer simplement en raison de la submersion de certains territoires. Deuxième type d'impact, c'est celui qui est lié à la baisse des précipitations, aux sécheresses et à la dégradation des sols. Problème qui va se combiner à la hausse du niveau des mers. Un effet particulièrement sournois de la hausse du niveau des mers, ça va être la contamination de certaines nappes d'eau phréatique. En d'autres termes, des réserves d'eau potable en sous-sol vont être contaminées par de l'eau de mer, qui, comme vous le savez, est de l'eau salée, et va donc devenir impropre à la consommation, sauf à mettre en place des processus coûteux et lourds de désalinisation de l'eau. Si on regarde l'effet des sécheresses, par exemple, sur les migrations, ça reste néanmoins un effet assez difficile à déterminer. Notamment, ce qui paraît paradoxal, c'est que des études empiriques montrent qu'au plus fort des sécheresses, la migration avait plutôt tendance à diminuer plutôt qu'augmenter. Alors, qu'est-ce qui explique cette diminution des flux migratoires lors des périodes de sécheresse plus importantes ? Les populations qui sont les premières touchées par les sécheresses sont évidemment les populations d'agriculteurs et de bergers, c'est-à-dire ceux dont les revenus sont directement dépendants de l'environnement. Dans les périodes de sécheresse, les revenus de ces populations diminuent considérablement. Ce qui fait qu'au plus fort de la sécheresse, les ressources disponibles pour chaque famille sont consacrées en priorité à la satisfaction des besoins primaires du ménage, c'est-à-dire au nourrissement des enfants. Ça veut dire que pour les familles les plus pauvres et les plus vulnérables, pendant les périodes de sécheresse, la migration n'est plus une option possible parce que ça coûte cher. Et pour ces familles les plus pauvres, migrer devient un luxe qu'on ne peut pas se permettre au plus fort de la sécheresse, qu'on peut soit envisager avant la sécheresse par anticipation, soit après la sécheresse par réaction, mais pendant la sécheresse, les familles les plus pauvres, ceux dont les revenus dépendent directement de l'environnement, sont coincées parce qu'elles n'ont simplement plus assez d'argent que pour migrer. C'est quelque chose qui a des conséquences politiques très importantes et je vais y revenir dans un instant. Et puis enfin, troisième type d'impact du changement climatique, c'est ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes, les catastrophes naturelles liées au climat. Alors, par définition, il est difficile de prévoir quand et où vont se produire ces catastrophes. Mais par contre, nous savons que les pays sont aussi très profondément inégaux face aux catastrophes naturelles. Et cette carte représente les catastrophes naturelles et leur impact en termes de vie humaine au cours des 30 dernières années. Les points rouges représentent le nombre absolu de catastrophes qui ont frappé les différents pays au cours des 30 dernières années. La couleur du pays, plus ou moins violette, représente le nombre de morts que ces catastrophes ont provoquées. Et vous voyez que là encore, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est est très clairement la région du monde qui paye le plus lourd tribut aux catastrophes naturelles. Et que si vous prenez deux pays comme l'Inde et les États-Unis, voilà deux pays qui ont été touchés par à peu près le même nombre absolu de catastrophes naturelles au cours des 30 dernières années. Mais vous voyez pourtant que ces catastrophes ont fait beaucoup, beaucoup plus de victimes en Inde. Et si elles ont fait beaucoup plus de victimes en Inde, c'est avant tout parce que l'Inde est beaucoup plus vulnérable, parce que la population y est beaucoup plus dense, parce qu'elle y est beaucoup plus pauvre et qu'elle a beaucoup moins les moyens de se préparer et de se prémunir contre les catastrophes naturelles. Et donc, l'importance de la vulnérabilité sociale est très importante pour montrer et pour expliquer combien les pays sont inégaux face aux impacts du changement climatique. Alors, examinons à présent qui sont ces fameux réfugiés climatiques dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Et souvent, quand on pense aux impacts géopolitiques du changement climatique, c'est la première image qui vient en tête. Cette photo que vous voyez là, et qui représente un immense camp de réfugiés aux portes de Buckingham Palace, provient d'une exposition qui a lieu en ce moment à Londres, au Museum of the City of London, et qui s'intitule simplement Climate Futures, et qui essaye d'imaginer ce que serait Londres dans 50 ans sous l'effet du changement climatique. Et des images qui reviennent sans cesse, et qui sont très présentes dans l'imaginaire populaire désormais, c'est l'idée que l'Europe et les pays industrialisés seraient envahis de hordes de réfugiés qui seraient déplacés par le climat et qui viendraient chercher asile en Europe, aux portes de Buckingham Palace. Et donc je vais essayer de vous montrer qu'en réalité, cette vision de culture populaire qui est souvent véhiculée a très peu à voir avec la réalité empirique de ces déplacements de population. Empiriquement, qu'est-ce qu'on constate quand on étudie qui sont les gens qui doivent se déplacer en raison des dégradations de leur environnement et quelles sont leurs principales caractéristiques? La première chose qu'il est important de dire, c'est que les gens ne migrent pas pour une seule et unique raison. Même dans des situations de dégradation environnementale avancée, on a généralement plusieurs facteurs migratoires qui s'entremêlent. Et l'environnement, parmi ces facteurs, n'est pas détaché du contexte socio-économique, mais va au contraire s'imbriquer dans ces facteurs socio-économiques et politiques. Et donc, en réalité, il est très difficile de définir les réfugiés climatiques comme une catégorie distincte d'autres catégories migratoires qui existent aujourd'hui. Ce qui est une certitude, par contre, c'est que ces facteurs environnementaux augmentent la contrainte migratoire. C'est-à-dire que sous l'effet du changement climatique, les gens sont de plus en plus forcés à migrer. Alors que les autres facteurs de migration sont généralement des facteurs qui poussent les gens à migrer, qui les incitent ou les encouragent à migrer, souvent, les facteurs environnementaux vont être des facteurs qui vont les forcer à migrer et qui donc vont renforcer la contrainte à la migration. Les gens, néanmoins, migrent sur de très courtes distances. La très grande majorité des migrations liées aux dégradations de l'environnement sont des migrations qui ont lieu à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que les gens migrent simplement sur une distance de quelques kilomètres, à la fois parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin, et aussi parce que les gens ne cherchent pas à fuir leur pays, mais souvent simplement à fuir leur région d'origine, c'est-à-dire la région qui est touchée par des dégradations de l'environnement. Ça veut dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun mécanisme de coopération internationale pour prendre en charge ces migrants, notamment pour prendre en charge le coût de ces migrations, et que le poids de ces migrations reste pour le moment totalement sur les épaules des pays touchés. Comme je le disais, avec la question de la dégradation des sols et des sécheresses, les flux migratoires n'augmentent pas nécessairement quand la dégradation de l'environnement empire. Il n'y a pas de relation systématique entre la gravité de la dégradation environnementale et l'importance du flux migratoire. Et en réalité, la magnitude, l'amplitude des flux migratoires va souvent dépendre bien davantage des politiques migratoires que de l'ampleur des dégâts à l'environnement. Et puis enfin, ce qui est très important, c'est que les populations les plus vulnérables, quand elles sont confrontées à des dégradations de l'environnement, se trouvent souvent complètement incapables de migrer, faute de moyens, faute de politiques appropriées. Et pourtant, la rhétorique que l'on emploie généralement est souvent aux antipodes de cette réalité empirique. Et la rhétorique qui est souvent employée, c'est celle des canaris dans la mine. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les mines auparavant, les mineurs emportaient avec eux des canaris qui étaient très sensibles à la présence de gaz toxiques et que si les canaris commençaient à sentir le grisou, par exemple, les mineurs savaient qu'il fallait décamper, qu'il fallait sortir de la mine au plus vite parce qu'une explosion de grisou allait se produire. Eh bien, les réfugiés climatiques sont souvent considérés comme des sortes de canaris dans la mine. On se dit, regardez à ce qui arrive à ces pauvres populations qui doivent migrer. Voilà ce qui nous arrivera à nous si nous ne réduisons pas immédiatement nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc on va voir souvent une instrumentalisation de cette figure du réfugié climatique comme la première victime ou le premier témoin du changement climatique, comme une façon pour nous de réaliser l'importance qu'il y aurait à réduire nos émissions. Et donc on va souvent voir les réfugiés climatiques comme les premières victimes expiatoires du changement climatique, comme l'incarnation humaine du changement climatique, alors que les migrants souvent refusent de se considérer comme victimes et se considèrent plutôt comme disposant de ressources importantes et certainement pas comme des victimes expiatoires et impuissantes. On va aussi largement percevoir la migration comme un échec de l'adaptation. On va se dire, si les gens ne parviennent pas à s'adapter aux conséquences du changement climatique, alors dans ce cas-là, ils devront migrer. En réalité, beaucoup de ceux qui migrent le font précisément pour s'adapter au changement climatique et pas du tout parce qu'ils ont échoué à s'adapter. Au contraire, la migration est pour eux une stratégie disponible dans le portefeuille des stratégies de l'adaptation. On va aussi voir généralement la migration comme une menace pour la sécurité. On va dire, les migrations vont générer des tensions, des compétitions pour les ressources et potentiellement des conflits. Alors que souvent, la migration, si on considère la sécurité au point de vue individuel et personnel, la migration va représenter une amélioration de la sécurité du migrant. Et on va se focaliser très largement sur les habitants des petites îles qu'on va considérer comme particulièrement vulnérables. Et vraiment, ces habitants vont devenir des sortes de premiers témoins du changement climatique. Et dans les négociations, souvent, les petites îles, et Tuvalu notamment, vont faire figure de héros de la négociation environnementale, parce que première victime, premier témoin du changement climatique, et très souvent, on va réduire les habitants et les petites îles à ce rôle de symbole, qui est souvent un rôle que les habitants eux-mêmes refusent d'assumer, et les habitants eux-mêmes souvent soulignent à quel point ils sont résilients et capables de s'adapter, et combien ce discours de canari dans la mine, finalement, n'a que peu à voir avec la réalité empirique de ce qui se passe dans les petites îles. Alors, que faire pour prendre en compte ces déplacements de population et quels instruments peut-on développer et mettre en place? Je pense qu'à partir de ces réalités empiriques, deux droits essentiels doivent guider notre réflexion. C'est ce que j'ai appelé le droit de partir et le droit de choisir. Le droit de partir est le droit qui est à l'origine du droit d'asile. Avant que leur soit reconnu le droit d'être accueilli dans un autre pays, ceux qui migrent doivent avoir le droit de quitter leur propre pays. C'est le droit qui est reconnu dans la foulée de la paix de Westphalie. La paix de Westphalie, en même temps qu'elle instaure le principe de souveraineté nationale comme principe fondateur des relations internationales, va également reconnaître à chaque individu, à chaque citoyen, le droit de quitter son pays s'il n'est pas d'accord avec son souverain, c'est-à-dire à l'époque, s'il est d'une autre religion que son souverain. Et quelques décennies plus tard, lorsque l'édit de Nantes est révoqué, les Huguenots vont devenir les premiers réfugiés de l'histoire. Et l'enjeu pour les Huguenots, ce n'est pas de savoir s'ils pourront être accueillis dans un autre pays. L'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne sont très heureux d'accueillir cette population protestante. L'enjeu pour les Huguenots, c'est de savoir s'ils pourront quitter la France. Et ils deviennent les premiers réfugiés parce qu'ils sont les premiers à mettre en œuvre ce droit de partir. Ce droit de partir qui nous semble évident à nous dans l'espace Schengen, qui est moins évident pour les populations libyennes ou nord-coréennes, qui n'était encore moins évident pour les populations d'Europe de l'Est avant la chute du mur de Berlin. Mais ce droit de partir qui aujourd'hui sous une forme différente est remis en cause par la crise écologique. Ce n'est plus le droit de quitter son pays, c'est désormais le droit de quitter sa région d'origine. Et faute de moyens, faute de politiques migratoires adaptées, les populations les plus vulnérables se trouvent souvent dans l'incapacité de migrer. Ça veut dire que leur droit de partir est profondément mis en question. Ça veut dire que leur vie, leur santé et leurs biens sont directement exposés aux impacts du changement climatique. Et ça veut dire qu'une conséquence politique importante, ça va être de leur permettre précisément de migrer, de réinstaurer ce droit à la mobilité, ce droit de partir. Droit de partir qui ne peut pas se concevoir indépendamment du droit de choisir. Et on va ici toucher à la question des politiques d'adaptation. À côté de ceux qui migrent, il y a ceux qui restent. Et les uns, comme les autres, sont souvent forcés dans leur choix. La plupart des gens qui migrent aujourd'hui sous l'effet des dégradations de l'environnement sont forcés de partir. Et à côté de ceux qui sont forcés de partir, il y a ceux qui sont forcés de rester, ceux qui voudraient partir, mais qui n'en ont pas les moyens, les plus vulnérables. Je pense qu'un enjeu fondamental va être de donner à chacun la possibilité de choisir la stratégie d'adaptation qui est la plus appropriée à sa situation. Et ça va impliquer de réduire cette contrainte, que ce soit une contrainte à partir ou une contrainte à rester. Ça implique que les politiques d'adaptation doivent non seulement, bien sûr, viser en priorité la région d'origine. Si on met des politique d'adaptation en place dans la région d'origine, une partie de la population ne sera plus obligée de migrer si on construit des digues, par exemple, pour protéger de la submersion certains territoires. Certaines populations n'auront plus à migrer. Mais ça veut dire aussi qu'il faut mettre en place des stratégies d'adaptation non seulement dans la région d'origine, mais aussi dans la région de destination. Cette région de destination sera souvent une grande métropole des pays du Sud, c'est-à-dire des villes qui aujourd'hui n'ont déjà pas les moyens de faire face à cet afflux démographique supplémentaire, des villes qui devront à la fois gérer un changement environnemental, mais aussi un changement démographique. Et aujourd'hui, il est impératif qu'une partie du financement de l'adaptation soit aussi dirigée vers les régions de destination des migrations. Et puis enfin, il est important aussi de faciliter, dans certains cas, la migration comme une véritable stratégie d'adaptation, c'est-à-dire de permettre que les migrants eux-mêmes puissent avoir accès directement au financement de l'adaptation pour pouvoir simplement migrer, pour pouvoir simplement se mettre à l'abri. Et donc je pense que c'est vraiment les instruments qu'on va devoir développer doivent conserver en ligne de mire ce droit de partir et ce droit de choisir qui me paraissent indissociables l'un de l'autre. Alors pour les 10 minutes qui me restent, je voulais faire un peu le point avec vous sur l'état des négociations internationales et sur finalement ce qui a changé entre Copenhague et Cancun. Et la question qui sous-tendra cette partie de l'exposé, ça sera de se demander si au fond nous ne sommes pas en train de passer doucement d'un modèle de coopération internationale à un modèle de coordination. C'est-à-dire que jusqu'à Copenhague, l'idée était d'arriver à une sorte de traité global sur le climat qui ensuite produirait ses effets dans chacun des pays. C'est-à-dire une logique qu'on appelle une logique top-down. On est peut-être en train de glisser, mais c'est encore une question en suspens, on est peut-être en train de se glisser de ce modèle de coopération vers un modèle de coordination, c'est-à-dire un modèle qui partirait des politiques nationales pour essayer ensuite de leur trouver un cadre commun de les coordonner. C'est-à-dire qu'on est en train de changer, de passer peut-être d'un modèle top-down à un modèle bottom-up, c'est-à-dire qui ne chercherait plus à tout prix à trouver ce cadre commun à tous, mais qui partirait au contraire des actions qui sont entreprises dans chacun des États pour voir ensuite comment les coordonner. Copenhague, on le sait, est une déception. Une déception à trois égards. Une déception, évidemment, en regard du contenu de l'accord. L'accord ne prévoit pas d'émissions, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, clairement, même si l'accord de Copenhague affirme la nécessité de ne pas dépasser une augmentation de la température de plus de 2 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle, les objectifs de réduction des émissions sont très en deçà de cet accord, sont très insuffisants que pour parvenir à cet accord. Et donc, en termes de contenu, Copenhague n'arrive pas à son objectif. Ce n'est peut-être pas le plus grave. L'accord de Copenhague est aussi décevant en regard de son format juridique. Beaucoup espéraient arriver à un accord légalement contraignant, un accord juridiquement contraignant, c'est-à-dire une sorte de protocole qui fasse suite au protocole de Kyoto. En réalité, l'accord de Copenhague est une simple décision prise à quelques pays dont l'Assemblée générale de la COP n'a fait que prendre note. L'accord de Copenhague n'a en réalité pas de statut officiel dans l'architecture des négociations. Mais je pense que fondamentalement, l'échec le plus grave de Copenhague et la déception la plus importante vient du processus de négociation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un accord négocié, mais d'un accord imposé. Et qu'au final, l'accord de Copenhague, c'est un accord qui est négocié entre pays émergents, qui est par la suite plus ou moins imposé aux États-Unis, puis ensuite à l'Union européenne et finalement aux autres pays. En réalité, la manière dont il est négocié, c'est que contrairement à tout le processus de négociation, contrairement à toutes les règles qui avaient été établies jusqu'ici, ces cinq pays qui se sont enfermés dans une pièce dans les dernières heures de la négociation, cinq chefs d'État qui ont directement pris la plume et rédigé un accord de trois pages, et puis qu'il a ensuite fallu vendre aux autres négociations. Alors, l'accord a été vendu, entre guillemets, à l'Union européenne en leur disant, écoutez, c'est ça ou rien. Si vous n'êtes pas d'accord avec cet accord, vous êtes obligé de repartir de Copenhague, grogeant comme devant, la queue entre les jambes. Et donc, il faut que vous vendiez cet accord à vos opinions publiques. Sinon, Copenhague sera définitivement un échec pour tout le monde. Et les dirigeants européens se sont rapidement trouvés des sortes de VRP de l'accord de Copenhague, simplement pour éviter de repartir les mains vides. Et puis ensuite, on a vendu l'accord aux pays en développement en leur disant, si vous voulez les 30 milliards de dollars pour l'adaptation, il faut que vous signiez cet accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'aurez pas l'argent. Et d'ailleurs, les 6 pays qui ont refusé de signer cet accord, aujourd'hui font face à des mesures de rétorsion. Les États-Unis notamment refusent de débloquer l'argent pour les pays qui n'ont pas signé l'accord de Copenhague. Et donc on est là face à une violation patente des règles de négociation et des règles de multilatéralisme, et c'est peut-être ça l'échec le plus grave de Copenhague. Et donc finalement, on arrive à un accord qui est centré sur les politiques nationales, qui ne parvient pas du tout à arriver à l'objectif de stabilisation à 2 degrés, mais au contraire, si on fait le total des différents engagements pris unilatéralement par chacun des pays, on arrive à une hausse de température de 3 degrés et demi. Comme je le disais, c'est un accord négocié à 5, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, États-Unis. Et c'est essentiellement, il faut le dire, même si beaucoup de commentateurs ont mis en place cette idée d'une sorte d'un monde bipolaire Chine-États-Unis. Soyons clairs, c'est un accord qui est dicté par la Chine, dans lequel les États-Unis n'ont rien eu à dire. Et en tout cas, en termes de négociations climatiques, les États-Unis sont considérés par la Chine comme une puissance sur le déclin, qui n'est plus un partenaire de négociations valables. Clairement, l'élément le plus frappant à Copenhague, c'est que le dirigeant chinois, Wang Jiabao, a refusé de négocier directement avec Barack Obama, considérant qu'Obama n'était pas un interlocuteur valable pour lui, et a laissé un sous-fifre négocier avec Barack Obama, tandis que Wang Jiabao négociait directement avec ses homologues indiens et brésiliens, qui étaient pour lui les véritables partenaires dans la négociation. Et puis enfin, il faut pointer, même si ça ne fera pas plaisir à certains, l'incompétence du gouvernement danois dans l'organisation générale de la négociation, et c'est aussi un élément important de l'échec de Copenhague, c'est que simplement le gouvernement danois a trop souvent donné l'impression de faire le jeu des États-Unis et a créé un climat de défiance entre les partenaires. Et vraiment, ce climat de défiance a été une explication clé de l'échec de Copenhague et est une des raisons clés qui explique que Cancun a été un succès relatif comparé au sommet de Copenhague. En réalité, si on regarde ce qu'il y a dans l'accord de Cancun, on trouve à peu près les mêmes éléments que ceux qui existent dans l'accord de Copenhague. Tous les principaux points y sont. L'objectif de 2 degrés est réaffirmé, mais sans que soient précisées les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui seront nécessaires pour parvenir à cet objectif de 2 degrés. En d'autres termes, c'est comme si vous disiez au Nouvel An que vous avez l'intention de perdre 10 kilos cette année, mais que vous ne vous fixez aucun régime. Le principe du fonds vert pour les pays en développement, donc pour aider les pays en développement à faire face aux conséquences du changement climatique, est réaffirmé. On précise que ce fonds devrait être abondé à hauteur de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Mais personne ne dit d'où viendra l'argent et personne ne dit à qui on distribuera l'argent. Et aujourd'hui, c'est un peu l'affolement général pour savoir qui va payer ces 100 milliards de dollars par an, ce qui est quand même une somme assez considérable, avec l'idée que peut-être que ça ne serait pas les États qui vont payer, mais directement les compagnies privées. Et on ne sait pas non plus comment on va distribuer cet argent. Et un enjeu, ça va être de définir le niveau de vulnérabilité des différents pays pour savoir qui doit recevoir l'argent en priorité et sous quelle forme. Alors, il y a quelques progrès globalement assez mineur sur RED, qui est un mécanisme de lutte contre la déforestation, sur MRV, donc la mesure, le rapport et la vérification des émissions, et sur les transferts de technologies. Mais en gros, on peut dire sans même beaucoup caricaturer, que l'accord de Cancun est une sorte de copier-coller de l'accord de Copenhague. Alors, qu'est-ce qui explique que ce qui était un échec, une déception générale à Copenhague, devient à Cancun un grand accord, symbole d'un élan d'optimisme retrouvé? Il y a trois différences importantes. Et ces différences qui touchent beaucoup plus au processus qu'au fond de l'accord. Et souvent, dans ce type de négociation, le processus est au moins aussi important que le résultat. La première différence, c'est que l'accord, cette fois-ci, n'est plus imposé par 5 pays au reste du monde, mais est un accord négocié entre les différents pays et accepté par les différents pays. La deuxième différence, c'est que alors que la conférence de Copenhague s'était déroulée dans un climat de défiance et de méfiance généralisée, la conférence de Cancun s'est déroulée dans un climat de confiance entre les partenaires. Et c'est pour beaucoup le résultat du brio et de la maestria de la présidence mexicaine qui a réussi ce que la présidence danoise n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire à instaurer un climat de confiance entre les partenaires et à montrer à tous les partenaires qu'elle travaillait dans l'intérêt général et qu'elle ne faisait pas le jeu en sous-main de l'un ou l'autre en particulier. Et puis c'est surtout que le processus multilatéral s'est trouvé conforté. Et après Copenhague, il y avait beaucoup d'observateurs et de politiques qui disaient « on ne peut plus continuer comme cela ». Il est impossible de trouver un grand accord à 200 pays, c'est simplement plus possible. Et les intérêts des différents pays sont devenus tellement différents, le monde est devenu tellement éclaté, qu'aujourd'hui il n'est plus possible de négocier à 200, il n'est plus possible de trouver un accord à 200. Et donc beaucoup plaidaient pour qu'on sorte les négociations du processus onusien et qu'on place ces négociations plutôt dans d'autres arènes comme le G8, le G20 ou le Forum des économies majeures. En disant ça sera beaucoup plus efficace si on négocie à 8 ou à 20 grandes puissances plutôt que de s'encombrer de tous ces petits pays, de la Bolivie, des Maldives, etc. Ça aurait été une catastrophe pour les pays en développement si les négociations sur le climat étaient sorties du cadre multilatéral. Parce qu'on aurait évidemment négocié au G8 ou au G20 des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. On n'aurait pas du tout négocié le financement de l'adaptation. Personne n'a intérêt, au fond, à financer l'adaptation. C'est quelque chose qui bénéficiera avant tout aux pays en développement, dont les émissions sont tout à fait mineures et non importantes. Et donc, si on négocie des questions d'adaptation au sein du processus multilatéral, c'est avant tout pour des questions de justice et d'équité envers les premières victimes du changement climatique. Ce n'est pas pour des raisons d'efficacité. Et donc, si on avait sorti les négociations du cadre onusien, vraisemblablement, les pays en développement n'auraient plus du tout eu voix au chapitre dans les négociations et donc n'auraient plus du tout été en mesure de réclamer de l'argent pour l'adaptation en échange de leur approbation à un accord global. Et donc, alors que beaucoup plaidaient pour qu'on sorte les négociations du cadre onusien, Cancun, au contraire, réaffirme l'importance de ce cadre onusien et réaffirme l'importance du processus multilatéral. Alors qu'attendre de la suite des négociations? Je pense que l'enjeu essentiel, ça va être de voir si on bascule effectivement d'un processus de coopération à un processus de coordination. En d'autres termes, est-ce que l'on se continue à se donner pour objectif la négociation d'un accord global sur le climat qui produise ensuite ses effets dans chacun des pays signataires? Ou est-ce qu'au contraire, on part surtout des politiques nationales, parce qu'elles sont plus efficaces, parce que chaque pays, les intérêts et les stratégies de chaque pays sont devenus peut-être si différents qu'il est aujourd'hui plus efficace de partir des politiques nationales, en essayant ensuite de coordonner ces différentes politiques, notamment en termes de méthodologie et de comparaison ou de comparabilité des efforts. C'est aujourd'hui difficile à dire. Il est clair que les difficultés de la négociation plaide pour qu'on aille plutôt vers une approche bottom-up, vers une approche centrée sur les politiques nationales. Le problème de cette approche, c'est qu'il n'y a plus aucun comptable des efforts. C'est-à-dire que si jamais les efforts sont insuffisants, eh bien, il sera trop tard à ce moment-là, et que donc forcément, on affranchit les États d'une certaine forme de responsabilité. Le problème d'une approche bottom-up, c'est aussi que l'adaptation soit reléguée au second rang, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il est impératif de développer des politiques d'adaptation pour aider les pays en développement à faire face aux impacts du changement climatique. Et que l'adaptation s'affirme de plus en plus comme un aspect essentiel de la lutte contre le changement climatique. Et donc c'est aussi le risque, évidemment, si on passe à un modèle de coordination. La question au fond, c'est de savoir si Copenhague, quelque part, est juste un incident de parcours qui a été rattrapé par Cancun et qui sera rattrapé ensuite par Durban, puis par Rio et par les autres conférences, ou si Copenhague marque, quelque part, la fin d'un cycle, la fin d'une ère, et quelque part, annonce aussi des processus de négociation à réinventer. Et ça, il est encore un peu trop tôt pour le dire. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Pardon d'avoir parlé de vous.